Qu'attendons-nous pour être heureux ? L'heure est grave. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle. Celle où il sera considéré comme normal, sain et loisible de transformer son corps selon sa volonté, de modifier le génome de ses enfants, de créer la vie artificielle sur commande, de chercher par tous les moyens à prolonger la vie pour devenir éternelle, d'introduire la cyborgie et la cybernétique au cœur de nos vies, bref, de remplacer une nature souvent défaillante par l'artifice commode. Google s'en charge. Ses dirigeants mettent des millions dans le rachat de tous les brevets en biotechnologie pour optimiser l'homme. Cette volonté a même un nom, le transhumanisme. Alors ça n'a rien à voir avec la transhumance, mais on y reviendra. Et c'est à la mode. Ça a même fait la couverture du dernier Télérama. Puisqu'on vous dit que rien ne sera plus comme avant. Aujourd'hui, cela se voit déjà, mais ce n'est pas flagrant. Il y a bien sûr un commandement, être heureux. Hier encore, un magazine me le demandait ouvertement dans la devanture d'un magasin. Êtes-vous heureux ? Alors, si vous l'avez raté, rassurez-vous, une demi-douzaine de magazines posent cette question tous les mois. Comme je ne suis pas certain de savoir exactement ce que cela veut dire, je l'ai ouvert. Alors, le magazine ne se posait pas non plus vraiment la question du reste, mais il me proposait une série de recettes pour l'être assurément. Des recettes pleines de bon sens. Voyez la vie du bon côté. Ne culpabilisez pas et surtout, faites-vous plaisir. Le magazine précisait que je l'avais bien mérité. Il y avait aussi des suggestions un peu curieuses. Faites des rencontres sur Internet ou des invitations à la sagesse, aux allures épicuriennes. Couchez-vous tôt pour être en forme et manger équilibré. Bref, notre époque est placée sous le signe d'une injonction. Soyez heureux. Quoi, vous ne l'êtes pas encore ? C'est pourtant pas faute de vous en donner les moyens. L'adage « à chacun son portable » nous promet d'être joignable en permanence et de communiquer, puisqu'on vous dit que c'est important. Vous souffrez le martyre parce que votre poitrine n'est pas assez volumineuse, il suffit d'une poignée d'opérations et le tour est joué. Vous n'êtes pas certain de votre identité sexuelle, vous voulez en changer. C'est aujourd'hui possible, mais attention, on vous demande d'abord si vous êtes sûr. Vous avez peur de sortir le soir, mais non, on surveille tout. Chaque quartier est filmé pour votre plus grand bonheur. D'ailleurs, la NSA l'a confirmé. On écoute tout le monde tout le temps, y compris les présidents. Mais la particularité de nos jours, c'est qu'on ne s'en cache plus. La transparence. Vous avez envie d'une nouvelle voiture, on vous prête de l'argent. Prenez-le, on vous en propose sans arrêt. Dans votre boîte aux lettres, sur votre boîte mail, dans les magasins. Vous avez peur de ne pas pouvoir rembourser votre prêt. Bon, eh bien, on vous en fait un autre. Faites-vous plaisir. Et surtout, pour les plus réfractaires au bonheur d'entre nous, des tas de pilules existent et sont remboursées. Ce qui tombe quand même bien, puisque nous, les Français, nous figurons parmi les pays les plus importants pour la consommation d'antidépresseurs au monde. Alors, qu'attendons-nous pour être heureux ? Pour répondre à cette question, puisqu'on va quand même s'efforcer d'y répondre, et non pas seulement donner des recettes, eh bien, nous procéderons en trois temps. Nous étudierons d'abord ce que peut être et ce qui peut conduire au bonheur dans les sagesses grecques qui cherchent à suivre la nature. Donc, ce sera une partie consacrée au bonheur par la sagesse, par la connaissance, par la maîtrise de soi, par la recherche du plaisir, et donc, d'une façon un peu générale, par la limitation des désirs. Nous verrons ensuite ce que peut représenter une recherche du bonheur dans un monde moderne qui ne se donne plus pour but de suivre la nature, mais les désirs et l'artifice. Et qui se révèle être, au sens propre d'ailleurs, une contre-nature. Nous insisterons sur ses origines et sur ses impasses. Donc nous naviguerons du bonheur des utilitaristes jusqu'au naufrage du transhumanisme. Et nous verrons enfin ce qui, à nos yeux, c'est-à-dire aux miens, importe quant à la question du sens de nos vies, et nous chercherons ce qui nous rend dignes du bonheur en essayant de ne pas trop donner de leçons. Donc, commençons. On va tout d'abord, essayez de faire un petit détour du côté de la sagesse grecque. C'est-à-dire, une sagesse qui nous enjoint, d'une façon très générale, à suivre ce que nous prescrit la nature. Alors, déjà, un mot sur la philosophie grecque. Pourquoi est-ce que ça me semble important de commencer par là ? Non pas parce que j'ai l'intention de faire un parcours chronologique, vous verrez que pas du tout, mais déjà parce que c'est une philosophie qui me semble s'être vraiment posé la question du bonheur, sachant qu'il ne s'agissait pas du tout pour les Grecs de séparer la philosophie d'une pratique, d'un mode de vie. C'est ce que dit notamment Pierre Hadot dans son excellent livre, dont le nom vient juste de m'échapper, comme par hasard. mais sur la philosophie antique. Je crois que c'est simplement introduction à la philosophie antique. Voilà. Pour les Grecs, il n'y a pas lieu de faire d'un côté la théorie et puis de l'autre la pratique. Alors voyez ce philosophe qui préconisait blablabla, mais non, dans les faits, en fait, il n'était pas du tout comme cela. Pour un Grec, ça n'aurait pas de sens, puisqu'une philosophie, c'est quelque chose qui nous apprend à vivre. Et la sagesse consiste à apprendre à vivre. Donc ils sont particulièrement bien placés pour se prononcer en matière, allez, premier terme technique de ce soir, il n'y aura pas énormément, en matière de démonisme. Qu'est-ce que le démonisme, tout attaché, ça vient du grec eudaimonia, qui signifie le bonheur, et en gros, c'est la conception qui considère, parce qu'on verra qu'il y a plusieurs façons d'être démoniste, mais le point de vue qui considère que le plus grand bien pour l'homme, c'est le bonheur. Vous allez me dire, bah oui, mais évidemment, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça peut être plein d'autres choses. Ça pourrait être justement, on le verra après, hein, mais ça pourrait être le devoir, même si le bonheur ne se trouve pas. Ça peut être la sagesse, même si ça ne nous rend pas toujours heureux d'être sage, etc. Mais pour les eudémonistes, d'une façon générale, la chose, le but ultime, c'est de chercher à être heureux. Donc, la vie heureuse et la vie moralement bonne coïncide, et cette scission finalement paraît assez évidente, mais elle n'est suspecte que pour deux types de personnes. Ceux qui se trompent soit sur la nature de la vie bonne, et qui considèrent qu'une vie bonne, c'est une vie qui consiste dans le sacrifice, par exemple. Porter sa croix. Bon, là, les eudémonistes diraient non. Ou ceux qui se trompent sur la vie heureuse, et qui se disent, par exemple, que la vie heureuse ne peut pas consister à chercher le bonheur, puisque ça aurait quelque chose de suspect. Pour Aristote, par exemple, ce n'est pas suspect de chercher à être heureux. Pas une seconde. D'ailleurs, c'est ce qui découle d'une vie pleine de sagesse. Parce que pour Aristote, d'une façon générale, tout ce qui est, c'est-à-dire les vivants, mais même les non-vivants, tend vers l'accomplissement en acte de ce qu'il est en puissance. Alors, en acte, en puissance. C'est pas très compliqué, c'est simplement l'idée que tant que vous n'avez pas accompli ce pour quoi vous étiez destiné, ce à quoi vous étiez prédisposé, eh bien tout cela, ce sont des facultés, des compétences, des attributs, ce que vous voulez, mais tout cela, c'est des choses qui sont en puissance. C'est-à-dire qu'en acte, vous ne serez vraiment accompli que quand vous serez passé de la puissance à l'acte, c'est-à-dire vous aurez actualisé tout ce potentiel que vous aviez. Alors j'en parle un peu d'une façon moderne, ce potentiel, ça fait un petit peu gymnase, mais l'idée, c'est vraiment cela, rejoindre sa place pour retrouver celle qui nous était destinée dans l'ordre du monde. Alors par exemple, vous allez me dire, oui, mais bon, tout cela c'est bien joli, mais si je veux, par exemple, peindre et que je peins extrêmement mal, eh bien, c'est très simple, c'est que vous n'étiez pas fait pour ça. Donc si vous passez votre vie à courir après quelque chose, pourquoi vous n'êtes pas fait, vous pouvez passer à côté de votre vie. Ça, Aristote ne dit pas le contraire. Mais d'une façon générale, il s'agit de bien se connaître et d'essayer de voir ce pourquoi l'être humain en général est fait. Alors c'est plus fin que ça, Aristote. Ça consiste plutôt à dire l'homme, évidemment, a une base un peu animale, ce qu'il appelle la vie végétative, etc. On a des choses communes. Mais si vous vivez toute votre vie comme un animal, vous n'avez simplement pas actualisé vos potentialités humaines. Ça veut dire que vous passez votre temps à vous baffrer de gaufres devant la télé, pour reprendre un exemple que j'ai souvent pris. Oui, alors pour les aficionados, pour les fans, il y aura moins d'exemples sur ma femme, puisque ma femme est dans la salle. Donc j'ai dû enlever 3 pages d'exemples. Bien, je prends beaucoup d'exemples là-dessus, mais... Imaginons que vous ayez pris l'habitude de vous baffrer devant la télé. Posez-vous la question, est-ce que mon chien peut faire la même chose? Oui, d'ailleurs il le fait. Enfin, il ne le fait pas parce que je n'ai pas de chien, mais il le ferait si j'en avais un. Si vous passez votre vie à faire la même chose que ce que peut faire votre animal de compagnie, c'est que vous ne vivez pas une vie pleinement humaine. Et vous ne pouvez pas être heureux. Donc, d'une façon générale, comment être heureux pour Aristote? Eh bien, en accomplissant ce pour quoi l'homme est spécifiquement fait. J'en bafouille. Eh bien, qu'est-ce qui finalement le définit spécifiquement? Eh bien, sa capacité justement à abstraire, à s'élever par son intellect, à contempler les idées, etc. Ça, votre chien, avouez-le, en est incapable. Ou alors, à un degré très, très, très minimal. Bien. Donc, l'idée, c'est bien cela. Vous pouvez bien sûr vivre une vie pépère, mais si vous ne cherchez pas vraiment à actualiser ce pourquoi vous êtes fait, vous ne serez pas heureux. Mais la réciproque est quand même plutôt réjouissante, c'est qu'il suffit d'accomplir ce pourquoi l'homme est fait, et peut-être vous particulièrement, pour immédiatement, schding, que le bonheur vous tombe dessus. Parce qu'il y a une harmonie, parce que tout est fait pour cela. Et donc c'est simplement les gens qui vont contre la nature qui finalement s'expose à une vie de malheur. Voilà en gros, bon, d'une façon un peu simpliste, on peut aller plus loin, ce que nous fait remarquer Aristote. Il n'y a pas de raison de ne pas être heureux, puisque le bonheur consiste à suivre la nature. Vous allez me dire, mais et l'homme, s'il n'avait pas une nature ? Et là, Aristote a une réponse. Il vous dirait, mais quelle idée ? Je cite Éthique à Nicomaque. De même, en effet, que dans le cas d'un joueur de flûte, d'un sculpteur ou d'un artiste quelconque, et de même en général pour tous ceux qui ont une fonction ou une activité déterminée. C'est dans la fonction que réside le bien, le réussi. On peut penser qu'il en est ainsi pour l'homme. Il serait absurde de penser qu'un charpentier ou un cordonnier ait une fonction et une activité à exercer, mais que l'homme n'en ait aucune et que la nature l'ait dispensé de toute œuvre à accomplir. Bon, on n'est pas sûr d'être convaincu. Mais, voyez le raisonnement. Un charpentier, il a un but. Vous n'allez pas me dire quand même, si le charpentier a un but, que l'homme n'en aurait pas. La nature est quand même suffisamment bien faite. Elle a permis que les charpentiers existent. Vous n'allez pas me dire que l'homme n'aurait pas de fonction propre. Bon. Donc Aristote nous invite à hiérarchiser, cela dit, les vies heureuses et les bonheurs. C'est-à-dire qu'il place dans la vie qu'il appelle contemplative ou théorétique, c'est-à-dire le plus grand degré de sagesse possible pour l'homme, eh bien, il place là le plus parfait bonheur. Alors, vous en avez un presque parfait, un peu moins bien, si par exemple, vous êtes un combattant et que vous êtes au service de la cité, ou un homme politique. Vous suivez un peu votre destin, mais vous ne serez jamais aussi heureux, même si vous serez heureux. Alors là, tout de suite aussi, je vois vos regards courroucés et vous me dites, mais ça veut dire quoi, être plus ou moins heureux ? Heureux. A priori, si on est heureux, on est absolument heureux. Et oui, si on suit la définition, il n'y a pas vraiment de mesure quantitative dans le bonheur. Si vous êtes heureux, vous avez atteint un maximum de bien-être. Si vous êtes simplement dans le plaisir, là, ça peut varier. Je peux me faire plus ou moins plaisir. Mais si je suis heureux, ça veut dire qu'il ne me manque rien. Bon, mais après, on peut toujours discuter, faire des querelles de définition. On voit très bien ce que Aristote veut dire. Eh bien, le bonheur est possible. Il peut s'atteindre pour l'homme. Et surtout, il faut quand même le dire, j'aime bien cette citation, alors j'introduis cette idée. La perfection du bonheur ne s'apprécie pas seulement au moment où cette vie atteint son dernier jour. Il ne suffira pas au moment où vous allez, terrassé par la vieillesse, mourir, vous retourner sur votre vie et dire « Alors, est-ce que j'étais heureux ?» Non, non. Le bonheur, c'est pas cela, et c'est pas non plus sur un seul jour. On ne dit pas « Youpi, je suis heureux » avant d'avoir une vie de malheur, etc. Donc, citation, Éthique à Nicomaque, « Encore faut-il que ce soit dans une existence qui atteint sa fin, alors sa fin c'est son but, car une seule hirondelle ne fait pas le printemps, non plus qu'un seul beau jour. Or, de la même façon, la félicité et le bonheur ne sont pas donnés non plus en un seul jour, ni même en peu de temps. » Alors, voilà, il faut une certaine durée. On précise un peu plus ce qu'est être heureux. On a vu bon, accomplir ce pourquoi nous sommes faits, etc. Et puis, Aristote, qui n'est quand même pas dupe, dit que le bonheur ne va pas sans s'accompagner aussi d'un certain nombre de biens. Des biens du corps, c'est-à-dire la santé, la beauté, hein, évidemment, et matériel. Un niveau minimum de richesse, une réputation honorable, etc. Il n'en faut pas trop, mais quand même. Alors, j'aime bien cette citation, qui est pleine de bon sens. On n'est pas complètement heureux si l'on a un aspect disgracieux, si l'on est d'une basse extraction ou si l'on vit seul et sans enfant. Il donne quand même quelques recettes. Donc, ayez des enfants, soyez beaux, soyez heureux. Voilà, c'est tout simple. Si vous êtes disgracieux, tant pis pour vous. Mais si vous avez choisi d'être beau, vous avez fait le bon choix. Bon, alors tout cela pour dire évidemment qu'il y a, et Aristote en est conscient, des circonstances qui ne dépendent pas de l'individu. Il serait effectivement, et ça Aristote le note, paradoxal un petit peu de dire que le sage est heureux même sous la torture. Alors que d'autres le disaient, hein. On le verra juste après avec les stoïciens, qui prennent un malin plaisir à nous dire que si vous êtes vraiment sage, une très belle façon de l'éprouver, on vous fait bouillir et vous êtes capable d'être heureux. Bien. Donc là, on se dit tous, ah, en fait, je ne suis pas vraiment sage. Alors peut-être que c'est simplement que ce n'est pas ça le bonheur, je ne sais pas. Mais voilà, normalement, pour être heureux, nous dit Aristote, c'est peut-être pas la peine non plus d'imaginer qu'on le serait sous la torture. Mais cela dit, même dans les pires circonstances, le sage peut toujours, je cite, « agir avec le plus de noblesse possible, pareil en cela à un bon général qui utilise à la guerre les forces dont il dispose de la façon la plus efficace. » Donc, voilà. Mais, et je termine sur Aristote là-dessus, il y a quand même une remarque essentielle qu'il fait pour notre propos, c'est qu'il nous invite à nous comporter en immortels. Là aussi, j'ai encore une petite citation. Il y en a beaucoup au début, peu après. Mais pareille existence dépasse peut-être ce qui est humain. Ce n'est pas en effet en sa qualité d'homme que quelqu'un peut vivre ainsi. Donc ça, c'est si vous êtes sage, si vous êtes absolument sage, si vous passez votre temps à cultiver votre intellect. Donc ce n'est pas en sa qualité d'homme que quelqu'un peut vivre ainsi, mais comme détenteur d'un élément divin qui réside en lui. Si donc l'intelligence comparée à l'homme est chose divine, la vie intellectuelle est également divine comparée à l'existence humaine. Il ne faut pas cependant suivre ceux qui conseillent de penser humain puisqu'on est homme et de penser mortel puisqu'on est mortel. Il faut, au contraire, dans toute la mesure du possible, se comporter en immortel et tout faire pour vivre de la vie supérieure que possède ce qu'il y a de plus élevé en soi. Car, bien que peu imposante, cette chose l'emporte de beaucoup en puissance et en valeur sur toutes les autres. L'activité du Dieu, qui est d'une félicité incomparable, doit être de nature méditative. Donc, parmi les activités humaines, celle qui lui est le plus apparentée doit aussi être celle qui ressemble le plus au bonheur. Pourquoi je précise encore ce point ? Parce que là, on a une définition de l'être immortel d'une façon extrêmement éloignée de ce qu'on verra avec le transhumanisme. Alors le transhumanisme cherche la même chose. Il dit, on vise l'immortalité. Sauf que d'un côté, vous avez une immortalité spirituelle chez Aristote. Ce n'est pas du tout une vie après la mort. C'est juste l'idée que, en allant jusqu'au bout de la vie contemplative, en cultivant son intellect, on aspire à avoir une vie divine. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus au-dessus, et donc de bonheur plus grand. Transhumanistes, on verra, c'est pas tout à fait pareil, c'est il faut en finir avec la mort, tuons la mort, c'est un peu un de leurs programmes, mais c'est vraiment au sens propre, quoi. On en a marre de mourir, ça suffit, ça fait déjà longtemps qu'on meurt, maintenant, il faut vivre éternellement. Vous voyez que là, on passe d'un niveau extraordinairement fin et théorique à un niveau du concret. Je ne veux plus mourir, il y en a assez. Bien, bon, on y reviendra. Voilà, en gros, alors, parce qu'Aristote me semble assez emblématique de cette sagesse grecque. Cultiver, mais c'est pas idiot, c'est même, à mon avis, absolument juste, cultiver ce qui fait de vous vraiment des hommes, ce qui vous distingue de l'animal, ce pourquoi vous êtes fait, et vous serez heureux. Alors, c'est pas tout à fait ce que dira le stoïcisme. Il est important aussi d'en faire un petit peu, de faire un sort au stoïcisme, parce que Aristote l'avait bien dit, et oui, mais on peut être disgracieux, il peut nous arriver des catastrophes épouvantables. Bon, bref, si autour de nous, même si nous on est quelqu'un de très bien, il se passe des choses affreuses, et si en plus on n'est pas avantagé, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le bonheur nous est inaccessible ? Eh bien pas du tout, nous dira le stoïcien. Presque au contraire. Ce sera une belle façon de vous éprouver, d'éprouver votre sagesse. Le stoïcisme, lui, va plutôt travailler, non pas simplement sur cultiver l'aspect théorétique et la connaissance, mais plutôt sur une attitude modérée à l'égard des désirs. Ce qu'a vu le stoïcien, c'est qu'il y a une chose qui peut vous rendre malheureux, c'est vos désirs. Et ces désirs sont tout à fait, ça c'est la bonne nouvelle, contrôlables. C'est-à-dire que Épictète propose même directement de les suspendre de façon simplement à en finir avec la souffrance. Alors c'est aussi le programme, on le verra plus tard, des transhumanistes. Mais là encore, d'une façon beaucoup plus spirituelle chez Épictète. Il faut d'abord suspendre toute forme de désir, d'abord, hein, après on peut désirer deux, trois choses, mais d'abord suspendre toute forme de désir, de façon à apprendre à distinguer entre, et l'adage est assez simple à retenir, entre ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. Alors, je ne suis pas très doué pour retenir des citations, mais il y en a une que je retiens assez facilement, c'est cette maxime d'Épictète, hein. Regardez, je regarde même pas mes notes. Agis en sorte que ce qui dépend de toi dépende de toi et que ce qui n'en dépend pas n'en dépende pas. Et tu prospéreras. Pas mal. Vous voyez ma mémoire un peu, c'est extraordinaire. Bien. Donc voilà en gros le programme du stoïcisme. Essayez, enfin ils ont vu en fait les stoïciens très bien que le grand malheur de l'homme c'est ses propres désirs. C'est ce qu'il se... Enfin, en fait, l'homme est responsable la plupart du temps de sa propre souffrance. En gros, il faut distinguer le désirable et le non-désirable. Ça nous permet déjà de garder sa dignité, nous dit Épictète, et de ne pas surtout être entraîné dans les mouvements passionnels qui nous dépossèdent de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est une question d'action et de passion. Alors, comme je l'ai déjà expliqué, et certains n'étaient peut-être pas là, je leur dis, la passion... C'est pas au sens un peu romantique et moderne de qu'est-ce que c'est beau, l'amour sans passion ce serait nul, d'ailleurs c'est pas vrai, en plus l'amour passionné c'est une catastrophe, mais enfin, vraiment passionné, je veux dire, vous vous détruisez, quoi, justement, mutuellement. Mais, et vous allez me dire, oui, je sais, vous allez me dire, mais Hegel a dit rien de grand ne s'est fait sans passion, et là vous vous trompez encore. Parce que Hegel l'a bien dit, ça, il l'a dit. Mais ça veut dire, rien de grand ne se fait sans passion. Ça veut dire qu'il faut bien en passer par les passions, mais au sens justement de quelque chose qui vous dépossède, pour que quelque chose de grand soit fait. C'est pas qu'il dit, il faut être passionné dans la vie. Ça, c'est la morale de, je vais pas dire de ma femme. Je plaisante en plus, pas du tout, pas une seconde. Mais c'est la morale de, j'allais dire, votre grand-mère au départ. Je connais pas votre grand-mère. Mais l'idée, c'est que, rien de grand ne s'est fait sans passion, ça veut dire qu'il faut bien en passer malgré tout par les passions pour que quelque chose de grand se fasse. Alors, on ne va pas développer sur Hegel, mais la passion, en philosophie, d'une façon générale, c'est vraiment l'idée qu'il y a des choses en vous qui vous dépossèdent. Quand vous êtes passionné, vous n'êtes plus maître de vous-même. Alors, je vous ai donné un exemple à propos de ma femme, je le replace quand même. Si je surprends un jour ma femme dans les bras d'un autre, et que j'agis, alors là, moi, je suis assez comme ça, on a l'impression que quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans les livres de philo devrait être mesuré et calme, pas du tout. Je sais ce qu'il faudrait faire, mais je ne le suis pas. Bon, dans ces cas-là, la passion prend le dessus. Bon, je prends l'extincteur qui est à côté de moi, ou quelque chose de lourd, et je vais le fracasser sur la tête, non pas de ma femme, je l'aime trop, mais de l'amant de ma femme. Pouf ! Dans ces cas-là, évidemment, la passion m'emporte. Je sais que si je le fais, une vie de malheur va s'abattre sur moi. Ma femme m'en voudra beaucoup, son amant s'il survit, et je vais passer beaucoup de temps en prison, ça va être dur à justifier auprès de mes enfants. Bref, la passion, c'est le moment où vous perdez le contrôle, absolument. Et ça, pour Épicure, c'est la seule façon de... Épicure, bien sûr que non, Épictète, la seule façon de ne pas du tout être maître de soi, et c'est une condamnation à être malheureux. Donc, l'affectivité, c'est l'action automatique. Qu'est-ce qu'on a à l'envers, à l'opposé ? On a la volonté. La volonté, c'est tout à fait le contraire. Je suis volontaire quand je suis maître de ce que je fais. Et ça se cultive. Si on apprend à distinguer ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas, eh ben, je serai toujours absolument sûr d'avoir bien agi et je serai heureux. Alors, j'ai deux exemples. Un pas très drôle et un rigolo. Alors, le pas très drôle d'abord, très rapide. Épictète dit, mais il est très éloquent cet exemple, vous prenez la mer, vous décidez, vous devez prendre la mer, vous choisissez votre équipage avec soin. Vous choisissez le bateau avec soin. Vous regardez les conditions météorologiques. Parfait. Sauf que la météo s'est trompée, ce ne serait pas la première fois, et qu'en fait, il y a une tempête épouvantable, et qu'en dépit de tous les très bons choix que vous avez faits, eh ben, vous mourrez. Parce que le bateau coule, et qu'il n'y a pas moyen de vous sauver. Eh ben, vous mourrez heureux, dit Épictète, parce que vous savez que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Le reste, ça ne vous appartient pas. En revanche, vous êtes responsable si quelque chose était en votre pouvoir et que vous n'avez rien fait. Vous vous êtes laissé déborder par l'émotion, et vous regrettez. Ben, là, vous êtes malheureux. Et c'est normal. Alors Épictète donne aussi un exemple dans la vie courante. J'aime beaucoup cet exemple. Il dit, parce que ça m'arrive tellement souvent, et ça a dû vous arriver quelquefois, je désire aller me baigner, je veux me baigner, donc là c'est pas quelque chose de passionnel, pour le plaisir, pour l'hygiène, mais je sais, alors la phrase exacte est, les bains sont l'occasion de débordement passionnel. Alors je ne sais pas ce qu'il y a de passionnel dans les bains, on va dire la piscine, on va essayer de trouver, transposer l'exemple. Bon, en tout cas, je sais que si, dans un sens, vous allez à la piscine, en général, il y a toujours une comparaison de votre corps avec ceux des autres. Il y a toujours la peur, par exemple, de nager comme un pied, enfin pour moi en tout cas. Il y a toujours, etc. Donc ça, c'est le côté passionnel. Alors que nous dit Épictète ? Eh bien, la seule façon d'être parfaitement heureux en allant à la piscine, je traduis encore pour les névrosés comme moi, eh bien, c'est d'imaginer à l'avance exactement ce qui va se passer. Donc vous faites l'effort, vous réfléchissez. Alors là, il y aura les rires. Bon, ensuite, il y aura le moment où je devrais marcher dans le pédibule, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc dégueulasse où tout le monde met les pieds. Ensuite, il y aura le moment où, etc., quelqu'un va sûrement me percuter dans l'eau. J'ai horreur de ça. Bref, si vous entrevoyez déjà à l'avance tout ce qui va se passer, eh bien, vous serez absolument maître de tout ce qui va se passer et vous garderez votre dignité, puisque vous ne serez plus surpris. Donc voilà, vous avez en plus une recette. Mais d'une façon générale, le stoïcisme, c'est très simple, c'est d'abord un appel à la maturité. C'est-à-dire, c'est l'idée... Alors, deux choses. L'idée d'abord que le désir, pourquoi il est incontrôlable ? Parce qu'il est impossible à assouvir complètement. D'une façon générale, tout désir entraîne d'autres désirs. Et des frustrations, parce qu'il y a d'autres désirs qu'on n'a pas pu assouvir à la place. Je désire, je ne sais pas, passer ma vie avec ma femme, oui, du coup, non, c'est un mauvais exemple. Vous voyez, ça ne marche pas avec ma femme quand elle est là. Je prends que des mauvais exemples. Je désire, je ne sais pas, devenir prof de philo, je m'interdis, mon deuxième rêve, mon deuxième choix, être cosmonaute. C'est vrai, toujours voulu être cosmonaute. Je désire être un bandit des grands chemins, ben, ça me rend la carrière de policier difficile. Bon, il y a déjà ça. Mais il y a aussi l'idée que tout désir va entraîner une nébuleuse d'autres désirs. Hein, vous en voudrez toujours plus. En tout cas, ça dépend quel désir. Si votre désir, c'est devenir connu, vous ne serez jamais satisfait de la notoriété. Vous en voudrez toujours plus. Et vous serez toujours en train de vous comparer avec les autres gens connus. Et puis si vous devenez un jour plus connu, ce qui arrive fréquemment surtout de nos jours, vous serez condamné à aller à la ferme célébrité ou je ne sais plus comment s'appelle cette émission, les anges de la télé-réalité. 18. Bref. C'est une catastrophe. Le désir, en général, est incontrôlable et nous angoisse. Eh bien, tout cela nous rejoint aussi l'actualité la plus criante avec Freud. Bon, c'est pas tout à fait actuel, mais c'est presque actuel. Freud disait la même chose de l'enfant. L'enfant, gouverné par le principe de plaisir, est soumis à ses désirs et à la merci de ses désirs. Et du coup, il est malheureux. Vous lui dites toujours oui à votre enfant. Vous ne lui laissez pas la possibilité de créer vraiment son surmoi, hein, ses défenses, ses possibilités de devenir quelqu'un de moral. Vous lui dites toujours oui, il sera un être de désir, mais il sera aussi esclave de lui-même. Je l'ai déjà expliqué ça. C'est-à-dire qu'en fait, il sera malheureux, profondément malheureux. Il ne supportera pas le non, et les frustrations, elles vont arriver quand même dans la vie. Et puis surtout, il sera absolument incapable d'être satisfait. Si vous lui dites jamais non, quand bien même il obtient ce qu'il veut, bah, il lui manque quelque chose. Donc il sera malheureux. Et ça, Épictète le savait déjà. Il faut d'abord toujours apprendre à maîtriser ses désirs. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on se fait plaisir dans tout ça ? Parce que c'est bien beau, mais enfin, si c'est pour devenir stoïcien que vous nous avez convoqué, merci. Donc, d'accord, je note, distinguer ce qui dépend de moi de ce qui n'en dépend pas. Ça ne suffit pas. Eh bien, il y a encore une voie grecque qui vous permet, en plus, de lier sagesse et plaisir. Alors ça tombe bien. C'est Épicure. Cette fois-ci. Épicure et ses copains, l'épicurisme, disent que, en fait, le bonheur, ça consiste d'abord dans le plaisir. Mais pas le plaisir à n'importe quel prix. Ça, c'est pas le plaisir. Le plaisir à n'importe quel prix, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi ? Alors, c'est un peu compliqué juste sur ce point. Déjà parce que souvent on fait d'Épicure un type qui essaye de se faire tellement plaisir, qui se baffre, qui, voilà, les gros festins. Les... Non, pas du tout, c'est exactement, exactement le contraire. Alors c'est pas qu'il se condamne à manger du pain sec et de l'eau, mais c'est qu'il faut d'abord apprendre à maîtriser ses plaisirs pour être toujours dans le plaisir. Épicure évoque le plaisir d'une façon assez simple. On est dans le plaisir quand on ne souffre pas. Le plaisir, c'est l'absence de souffrance. C'est un peu léger. Mais ça marche assez bien. Vous êtes dans le plaisir quand vous dites « Ah !» Voilà. En revanche, c'est dur de dire « Ah !» en permanence, donc il faut toujours anticiper et apprendre à gérer. En gros, là encore, c'est une question de gestion du désir. C'est assez facile, il n'y a que trois types de désirs. Il y a les désirs qui sont naturels et nécessaires, ceux-là, vous pouvez vous lâcher, on les satisfait. Désirs naturels et nécessaires, ça peut être tout ce qui est évidemment de l'ordre du besoin. Alors, besoin au sens large, chez Épicure, c'est bien sûr manger, boire, dormir. C'est aussi faire l'amour, je cite. Non, vraiment. C'est pas moi qui en rajoute. De temps en temps, en tout cas. Parce que Épicure a bien vu que quand vous ne faites pas l'amour, au bout d'un moment, ça engendre des frustrations qui sont difficiles à gérer. Bon. Et bien sûr, c'est des amis. Alors, les amis chez Épicure, c'est aussi parce qu'on sait très bien que si jamais les choses tournent mal, c'est toujours mieux d'avoir des amis. Et que ça nous fait toujours plaisir de savoir à l'avance qu'on a des gens sur qui compter. Oui, ça semble un peu égoïste. Bon, peu importe. Désir naturel nécessaire. Désir naturel non nécessaire. C'est les mêmes, mais puissance 1000. Vous avez bien mangé et vous avez décidé que, puisque vous avez de l'argent, vous allez très régulièrement à la Tour Rose, à ce que vous voulez. Vous mangez toujours très bien. Eh bien, que nous dit Épicure ? C'est très simple. Plus vous prenez l'habitude de complexifier vos désirs, plus vos plaisirs seront durs à obtenir. C'est-à-dire que si un jour vous manquez un peu d'argent, eh ben vous serez dégoûté à l'idée de remanger comme avant. Alors que si vous avez toujours mangé honorablement, raisonnablement, vous serez toujours heureux. Si vous avez voulu etc. Enfin, plus vous complexifiez vos désirs, plus ils sont durs à satisfaire et moins vous êtes sûr d'avoir du plaisir. Deuxième recette d'Épicure. Pourquoi faut-il varier les plaisirs, justement, et pourquoi faut-il les trier, surtout ? Ah oui, je ne vous ai pas dit la troisième catégorie. Vous trépignez d'impatience. Oui, et il y a bien sûr les désirs non naturels et non nécessaires. Alors, non naturels, ça veut dire que ce n'est pas la nature d'emblée qui vous les dicte. C'est-à-dire que vous pourriez largement vous en passer. Par exemple, je ne sais pas, j'essaie de m'adresser à tout le monde, s'acheter une nouvelle voiture, alors qu'on n'en a pas besoin, en tout cas, vous allez me dire, mais enfin, j'ai besoin de ma voiture, s'acheter la PlayStation 4, alors qu'on n'en a pas besoin, vous allez me dire, oui, mais peut-être que j'en ai besoin. Bon. S'acheter, etc. Tout ce qui est non pas naturel, non pas nécessaire, mais en plus plutôt dispensable, alors là, il vaut mieux apprendre à s'en dispenser. Parce qu'il y a toujours de la frustration. Les désirs non naturels, non nécessaires vont engendrer une accoutumance, une difficulté à satisfaire et surtout une incapacité à combler entièrement ce vide. Vous décidez que votre désir non naturel, non nécessaire sera de devenir connu. Vous ne serez jamais assez connu. Vous souffrirez. Bien. Donc voilà en gros les trois désirs. Et enfin, parfois, alors Épicure le reconnaît, il vaut mieux parfois avoir un petit peu de déplaisir si ça nous promet un plaisir plus grand. Et réciproquement, il vaut mieux... C'est quoi la réciproque ? Je sais plus ce que je voulais dire. Peu importe, il n'y a pas de réciproque. Bien, donc, j'ai passé assez de temps avec les morales antiques. On a compris, ou pas, que pour toutes ces sagesses-là, il s'agit de trouver un certain équilibre, premièrement, de suivre les prescriptions de la nature, puisque dans un cas comme dans l'autre, comme dans le dernier, il s'agit toujours d'obéir à la nature. Pour Épicure, c'est les désirs naturels et nécessaires. Pour les stoïciens, parce que la nature, finalement, c'est votre nature même, qui, etc. Puis il y a aussi une idée de communion avec la nature, mais je n'ai pas développé. Et puis, bien sûr, pour Aristote, c'est actualiser vos potentialités, ce pourquoi l'homme est fait. Bien. Donc, toutes ces voies pourraient être très prometteuses. Bon, alors, il y a quand même un petit problème avec Épicure, j'ai quand même envie de le dire, c'est qu'il y a une menace derrière et qui va bien être vue par les modernes. La menace de la philosophie épicurienne, qui paraît pourtant très bien, est très simple. C'est l'idée que ce plaisir envisagé comme une absence de déplaisir, ça semble quand même un peu plat. On pourrait avoir l'impression que ça va quand même conduire un petit peu à l'ennui. Parce que quand je m'ennuie, j'ai un déplaisir propre à l'ennui, mais je n'ai pas une souffrance. Enfin, le plaisir pour Épicure, c'est surtout l'absence de souffrance. Sauf qu'il reste encore l'ennui. C'est ce qu'avaient vu les Cyrénaïques. Les Cyrénaïques, c'est des épicuriens sous Tranxène. Je ne sais pas si Tranxène, ça booste, mais alors sous cocaïne, si vous voulez. C'est des épicuriens qui n'ont rien compris au message d'Épicure, et volontairement, puisque eux, c'est au contraire aller toujours dans plus de plaisir, augmenter les plaisirs pour être toujours dans une jouissance, une satisfaction. Alors Épicure dirait « Oh là là, mauvais chemin !» Parce que plus vous augmentez votre plaisir, plus évidemment, vous vous condamnez à une souffrance. Par la suite, les Cyrénaïques disent « Tant pis, il vaut mieux une vie courte, mais intense. » Ça, c'est tout à fait ce que dira la modernité. Et en cela, c'est absolument le contraire de l'épicurisme. Mais bref, la première menace, c'est « J'ai pas envie d'une vie plan-plan, j'ai envie d'excitation. » Ça, les modernes, on l'a compris, ce qu'on aime, c'est être excité. Des stimulations, partout. Oui, je suis très réac de ce côté-là. Si vous ne le savez pas encore, vous allez l'apprendre. Mais les sages, non, c'est l'équilibre, c'est le choix. Bon, les modernes ne vont pas être très contents. Alors, quand je dis les modernes, c'est les non-antiques. Hein. Ça va très vite. Alors, vous allez me dire, au Moyen-Âge, on n'est pas très moderne. Bon, oui, d'accord. On va dire à partir des... Grosso modo, à partir du XVIIe siècle. Ça vous va ? Ça va, le XVIIe. XVIIe, si vous n'êtes pas content avec le XVIIe, prenez les Lumières, ça me va aussi. Ça marche avec ce que je dirais. Enfin, quand même, le XVIIe, c'est bien, c'est moderne quand même. C'est le début du moment où Galilée propose son modèle, c'est le moment où tout commence à changer. Bien, alors, qu'est-ce qui va poser problème justement avec tout cela? Eh bien, l'idée de modération, encore une fois, passe très mal de nos jours. Se modérer, ah oui, non, pas envie de me modérer, peut-être plus tard, bien. Et puis, il y a une autre idée qui gêne les modernes. C'est que, à partir de Galilée, on n'est plus tout à fait sûr que Dieu existe. On se pose quand même la question. Et s'il n'y a pas de certitude que Dieu existe et que le monde est ordonné, s'il n'est pas tout à fait sûr que la nature nous sert de guide, eh bien, on s'est rendu compte que, on devait compter sur nous-mêmes. Et du coup, si le plaisir et l'immortalité ne nous attendent pas assurément au-delà, eh bien, autant le faire advenir de force ici-bas. Et enfin, je dirais, plutôt que suivre la nature, on a trouvé qu'il était quand même beaucoup plus profitable de s'en faire maître et possesseur, enfin, comme maître et possesseur. Et donc, de plutôt, non pas la suivre comme un modèle et comme un guide, mais plutôt, nous, lui imposer un petit peu notre volonté. On s'est dit que c'était plus marrant comme ça. Voilà pourquoi on passe à la conception moderne du bonheur. Le bonheur par l'utile. Deuxième partie, hein, pour ceux qui ne suivent pas. Le bonheur par l'utile. Transformer notre nature. Vous voyez, c'est astucieux. Hein. J'avais dit au début, suivre la nature. Et maintenant, c'est transformer notre nature. Pardon, c'est astucieux selon mes propres critères. Il y en a qui, à chaque fois, me regardent en faisant comme ça quand je me fais un auto-compliment. Bon. Alors, quelle conception du bonheur pourrait le mieux représenter la nôtre? Enfin, la nôtre. Vous avez compris que ce n'est pas forcément celle que je défends. Mais celle qui, la plupart du temps, en tout cas, se retrouve communément à la télévision, dans les médias, même dans les magazines, comme je vous le disais, eh bien, le démonisme de l'âge moderne, puisque le terme reste, encore une fois, le plus grand bien de l'homme, c'est le bonheur, eh bien, on peut le trouver dans une sorte de démonisme laïcisé, qui n'a plus grand-chose à voir avec la sagesse grecque, ou avec la sagesse tout court, peut-être, diront les plus pessimistes, qu'on appelle l'utilitarisme. L'utilitarisme, je vous ai déjà fait un petit truc là-dessus, mais j'ai envie d'y revenir un tout petit peu, et d'approfondir. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'utilitarisme? Il conviendrait quand même de ne pas rentrer dans un piège. Ce n'est pas du tout cette conception complètement caricaturale qu'on se représente en général lorsque on entend le mot utilitarisme. On se dit « oh, bah, il faut que ce soit utile ». Oui, mais c'est plus intelligent que ça, parce que ce n'est pas du tout un égoïsme. C'est même exactement le contraire. Donc c'est bien une morale qui vise le bonheur. Alors l'utilitarisme se présente comme une morale altruiste qui prend en compte les autres et qui se soucie du bien-être de tous. Ce n'est pas du tout des gens méchants qui sont à l'origine de l'utilitarisme. Au départ, l'intention est louable. L'idée directrice est extrêmement simple. Là aussi, je pourrais ne pas la lire. Une action est bonne quand elle tend à réaliser la plus grande somme de bonheur dans l'univers pour le plus grand nombre possible d'êtres concernés par cette action. Elle est donc mauvaise, dans le cas contraire, quand elle tend à augmenter la somme globale de malheur dans le monde, ou quand elle vise beaucoup moins de personnes qu'elle ne le pourrait, en gros. Bien. Donc, super programme. Une action est bonne quand elle permet au plus de gens possible d'être heureux. Mais quel est le problème immédiat? C'est que tout cela ne va pas sans la possibilité sans un sacrifice. C'est-à-dire qu'il faut sacrifier pour obtenir ce qu'on veut. Il faut évidemment un sacrifice possible. Parce qu'il y a bien sûr des cas où, justement, il vaut mieux sacrifier un bonheur individuel pour obtenir le bonheur du plus grand nombre. Alors, si je voulais être vraiment de mauvaise foi, même si c'est, à mon avis, très exactement ce qui se passe, on pourrait illustrer ça par Nagasaki et Hiroshima. Aux yeux des Américains, je vous l'ai déjà dit, hein, je crois. Alors, les Américains, je suis très, très, très... Voilà, pas tous, évidemment, non. Mais d'une façon générale, cette morale est plutôt anglo-saxonne, en gros. Et les anglo-saxons ont tendance à défendre l'utilisation de la bombe atomique en disant, ce qui est vrai, mais ça nous a permis de mettre fin à la guerre. Les Japonais étaient les méchants, selon les Américains. Ils ne voulaient pas capituler. Ils faisaient des centaines de morts tous les jours. Des millions, peut-être, au total. Et donc, en lançant une bombe atomique, eh bien, on provoque leur reddition et on sauve un grand nombre de vies. Civils, soldats, tout ce que vous voulez. Ça va. Et c'est vrai que dans les faits, statistiquement, alors, bon, d'accord, ça n'a pas marché la première fois. Il a fallu leur répéter. Mais dans les faits, si vous tuez plein de civils, vous faites peur et le conflit s'arrête. On a sauvé des millions de vies, admettons, même des millions de vies. Mais pouvait-on sacrifier une portion de gens innocents ? D'une façon générale, pour sauver 10 personnes, tueriez-vous votre voisin ? Ou tueriez-vous même un inconnu ? Si ça en sauve 10, bien sûr, vous dites, quand même 9, c'est plus que 10. Ben oui, mais faut-il tuer une personne pour en sauver 10 ? C'est la question. Et après, on peut complexifier, puisque c'est qu'une question après de pronostic et de... Voilà. Et si cette personne était un enfant ? Ah ouais, un enfant quand même, ça me chagrine. Bon, je veux bien tuer un enfant pour 20 personnes. Allez. Bon. Oui, mais si c'est votre enfant ? Ah, si mon enfant, ça m'embête. Ouais. Bon, bien tuer mon enfant ? Non, je veux pas le tuer. Bon. Voyez tout de suite les calculs terribles que cela fait. C'est-à-dire, à partir de quand, une personne pourrait être sacrifiée pour 3 ? Alors c'est évidemment, les militaires sont évidemment dans ces cas de figure. Hein. Faut-il envoyer les soldats au front ? Ça risque de très mal tourner, mais il y a une possibilité que derrière... Bon. C'est aussi le cas de... Bon, il y avait un exemple, mais je l'ai déjà pris, alors là encore, j'ai l'impression de me répéter, très très rapidement, c'est le coup du tramway. Un tramway passe, un tramway fou, le conducteur est mort, le tramway fonce. Il devait s'arrêter 3 gares plus loin. Mais ses freins ont lâché, il est mort, et le tramway fonce sur des ouvriers qui étaient en train de réparer la voie. Bon, alors eux ne regardent pas, puisque le tramway était censé s'arrêter, on ne savait pas qu'il y aurait ce genre de problème, et ils sont destinés à une mort, et ils sont 3. Ils travaillent des petits... Je ne sais plus comment on appelle ça. Traminots, merci. Des traminots, bien. Vous êtes là, et vous êtes à côté d'un levier qui permet de détourner la trajectoire du tramway. Sauf que, si vous le détournez, eh bien, comme tout le tramway est en réparation, eh bien, l'autre, c'est pareil, mais il n'y a qu'un seul tramino. Allez-vous sacrifier, donc, pousser le levier pour détourner le tramway, et là, vous causez la mort de ces individus, ou allez-vous faire en fermant les yeux et laisser l'horreur arriver avec les 3 traminos qui sont écrasés ? Allez-vous volontairement tuer une personne pour en sauver 3 ? Sachant que, indirectement, vous les tuez aussi si vous n'intervenez pas, puisque vous pouvez. Voyez, quand on est en matière d'humain, l'utilitarisme, c'est affreux. C'est apprendre à réfléchir à partir de statistiques. À partir de quand puis-je sacrifier le bonheur de quelqu'un au profit de plus de bonheur pour plus de personnes ? Alors là, on voit tout de suite les limites, mais on voit aussi les qualités. C'est-à-dire que c'est une morale concrète, et le but, c'est d'étendre le bonheur. Ça va même plus loin. Jérémy Bentham, qui va être dans cette mouvance, même s'il n'est pas d'emblée... Enfin bref, tout le monde n'est pas forcément d'accord du côté des utilitaristes. Mais Bentham va considérer que du coup, ce qui compte avant tout, c'est la somme de souffrance globale. Ça veut dire que l'animal aussi est sujet de droit. Si l'animal souffre, et il souffre, si vous ne le croyez pas écraser la queue de votre chien, vous verrez bien, en tout cas, il a toutes les apparences possibles d'une souffrance... Eh bien, puisque l'animal souffre, lui aussi a droit au bonheur. On ne peut donc pas, indirectement, juste bousiller des tas d'animaux en laboratoire, par exemple, alors c'est moi qui vais directement à l'essentiel, au profit de l'homme. L'homme n'est pas sacro-saint. Jusqu'où faut-il aller, en tout cas, pour trouver, par exemple, on peut peut-être sacrifier un certain nombre d'animaux, les faire souffrir, d'accord, pour tester des vaccins qui pourraient sauver l'humanité, évidemment. Mais faut-il faire pssst sur les yeux des lapins pour être sûr que mon parfum risque pas d'aveugler madame ? Bon, je ne sais pas. La question se pose. En tout cas, la question se pose pour Bentham. L'homme n'est pas le seul. Si la question, au fond, c'est la question de la souffrance, c'est de diminuer la souffrance, d'étendre le bonheur, pourquoi l'animal ne serait-il pas concerné ? Donc c'est une façon aussi, malgré tout, de réduire un peu les prétentions humanistes. L'humanisme qui se dirait « tout est à destination de l'homme maintenant, l'homme tout-puissant ». Donc c'est un côté très bien. Et de ce côté-là, c'est une morale qui est assez éloignée du transhumanisme dont je vous ai un peu parlé, dont je vais vous parler dans quelques instants. Mais d'un autre côté, c'est la morale par excellence qui va l'amener. Alors, résumons. Quels sont les 3 points fondamentaux de l'utilitarisme ? D'abord, 1. L'homme n'est pas le seul être à posséder des droits. Doivent en bénéficier tous les êtres qui sont susceptibles d'éprouver du plaisir ou de la peine. Deuxièmement, le but ultime de la morale et de la politique, c'est la somme de bonheur dans le monde, et non fondamentalement la liberté. Vaut mieux être un peu moins libre, mais un peu plus heureux. Troisièmement, Le droit a pour finalité de protéger des intérêts, quel que soit le sujet dont il est question. Alors, si vous voulez faire un test tout simple, qu'est-ce qui a des intérêts, qu'est-ce qui n'en a pas ? Une pierre, voilà, prends l'exemple Bentham d'une pierre sur le chemin, non c'est Henri Salt, mais bon, sur le chemin de l'écolier. L'écolier joue au foot avec la pierre. Est-ce que la pierre a intérêt à ne pas se retrouver sur le chemin de l'écolier ? Non, on s'enfuit. Enfin, une pierre s'en fiche, il n'y a pas d'intérêt. En revanche, si il joue avec une souris, j'ai un ami comme ça qui avait joué au foot avec un hérisson. Bien, les enfants sont cruels. Le hérisson a-t-il des intérêts ? Oui, visiblement. D'ailleurs, même mon ami s'en veut encore. Il me raconte encore ça aujourd'hui. Il s'en veut, hein, rassurez-vous, il est humain. Bien. Donc, trois points fondamentaux. Voilà en gros une morale moderne, gérée à chaque fois l'utile, le pas utile, en vue du plus grand bonheur possible pour le plus grand nombre de personnes. Avec tous les problèmes que ça pose. Alors, pourquoi est-ce que ça pose problème ? Eh bien, parce qu'en découle aussi directement l'idée que, en s'affranchissant des normes transcendantes, c'est-à-dire d'une norme au-dessus de nous, la nature pour les Grecs, Dieu, en s'affranchissant des normes transcendantes, eh ben c'est l'utile qui sert de valeur. Et à ce titre, pourquoi ne pas transformer directement la nature même de l'homme, si tout cela nous rend heureux ? C'est ce que Jérôme Goffet, avec deux F, deux T, Goffet, dans un livre fameux que je vous recommande, qui est là d'ailleurs, tiens, Naissance de l'anthropotechnie, le terme est barbare, il le sait, il le justifie, eh bien il nous dit, et ça nous fait peur, que nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle ère, dans l'ère du bricolage médical et biologique de la vie humaine. Et nous faisons entrer la notion de nature humaine elle-même dans une crise nouvelle. C'est de là que vient le terme anthropotechnie. Hein, anthropos, c'est l'homme, et technie, bon, ben, on s'en doute. Donc c'est l'idée d'une transformation de l'être humain. C'est l'idée d'arriver à un état surnormal, d'optimiser l'être humain, par exemple. De faire disparaître ce qui passe pour être des défauts, de transformer aussi sa nature, d'agir directement dessus. Voilà en gros ce que nous dit ici Jérôme Goffet. Voilà ce qui s'annonce. Alors ça s'annonce déjà, ça annonce plutôt une révolution dans la façon dont l'être humain se considère lui-même. Alors, depuis longtemps, il a vu qu'il n'était pas comme un animal. Et il a envie de se différencier, de creuser cette différence avec l'animal. Mais avec cette nouvelle conception du monde, l'horizon s'ouvre. Et l'être humain devient modelable. C'est-à-dire que l'homme va chercher à s'inventer lui-même, à s'auto-produire, à faire naître de nouvelles choses en lui. Et il fait aussi naître parallèlement de nouveaux problèmes. Il va essayer, en gros, de s'optimiser. C'est pour prendre un terme absolument dégueulasse. Bien. Alors, évidemment, Jérôme Goffet est bien au fait que ces désirs ne sont pas nouveaux. Ces désirs qu'on avait déjà chez les Grecs. Hein. Mais avec l'avènement des nouvelles technologies, des découvertes scientifiques, et bien maintenant, tout est rendu possible de ce côté-là. Et donc peut-être que les Grecs auraient fait les mêmes erreurs que nous, mais en tout cas, c'est aujourd'hui que ça nous tombe dessus. Et c'est le moment d'y réfléchir. Alors, les aspirations éternelles de l'humanité, Goffet en fait le point, et il les trouve déjà dans les mythologies. Première orientation, vous allez vite les reconnaître, hein, c'est l'aspiration à la jeunesse éternelle, à l'immortalité. Alors, on les trouve dans les mythes, par exemple, de la fontaine de Jouvence, dans l'immortalité divine, etc. Deuxièmement, la puissance mentale. Pardon. La puissance mentale, on la retrouve dans la sagacité et l'omniscience divine. Troisièmement, la beauté, avec la splendeur d'Apollon, d'Aphrodite. Quatrièmement, la puissance physique, Hercule, Arthur, etc. Cinquièmement, le désir de fécondité, notre mère nature, Gaïa. Bon. Sixièmement, la volupté sexuelle, parce que le divin, chez les Grecs, incarne le désir. C'est pas seulement sexuel, mais c'est l'éros au sens large. Septièmement, l'ivresse ou la sérénité des substances sacrées. Oui, mais évidemment, ce que je veux dire. Les religions et les rites, bien sûr, pour les Grecs. Enfin, la création de l'humain, avec évidemment Prométhée, etc. L'idée, bien sûr, d'être des dieux, d'agir comme eux, ça nous fait rêver depuis la nuit des temps, j'allais dire, quelle horreur. Ne dites pas ça dans vos dissertations, si vous êtes encore en terminale. Bien. Toutes ces orientations mythologiques ont leur équivalent anthropotechnique. Le dopage physique, donc ça c'est pour le côté physique, psychique d'ailleurs, certains prennent des bêta-bloquants pour éviter d'avoir du stress pour parler en public, les transformations esthétiques, procréatiques, les modifications émotionnelles, les changements sexuels, la quête d'immortalité et la création de l'homme, évidemment d'une façon générale. On pourrait dire la modification du génome. Alors, pour Sloterdijk, c'est une super chance. ça tombe très bien, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est-à-dire que lui, alors, il assume ses nouveaux critères et il dit « il faut rejeter toute forme d'idolâtrie de la nature humaine, ça suffit, ça c'est pour les bébés, il faut comprendre la nature comme quelque chose de modifiable ». Pour Sloterdijk, c'est l'homme qui doit inventer sa propre nature. Alors, ça nous rappelle un peu Sartre, mais Sartre n'est jamais allé aussi loin. Dans l'existentialisme et un humanisme, il disait que l'homme n'est pas un donné, mais un projet à constituer. C'est-à-dire qu'on rejette par là toute voie tracée à l'avance, tout destin, toute prédétermination. Mais Sloterdijk, lui, dit « oui, mais on peut même aujourd'hui considérer que notre grande chance est de pouvoir modifier notre nature ». On n'a pas un donné déterminé, on n'a pas une nature déterminée comme le chien ou comme n'importe quel animal qui est programmé par la nature en quelque sorte. Nous, on peut faire de nous-mêmes ce que l'on veut, on peut se modifier et c'est génial. On ne va quand même pas se gêner. Bon. Alors évidemment, une fois ôté ce genre de préjugés optimistes, hein, il faut essayer de faire preuve un peu de discernement. Face à l'avenir, effectivement, le chemin n'est pas tracé, mais enfin... cette espèce de volonté de tout modifier sans frein ni loi, ça peut aussi être absolument effrayant. Et c'est notamment ce que dit, à l'inverse, Fukuyama, dans « Notre avenir post-humain ». Eh bien, certaines applications biomédicales, nous dit-il, présentent le risque d'altérer la nature humaine, introduisant une rupture dans la continuité de notre espèce et altérant aussi bien les bases sociologiques, éthiques ou politiques de nos sociétés. Bon. Voilà ce que disait Jérôme Goffet il y a une dizaine d'années à peu près, un peu plus peut-être, en 2008. Bon, je calcule mal. Et puis, l'étape suivante, paf, aujourd'hui, on est en plein dedans, on va prendre tous ces problèmes, extrêmement bien développés dans ce livre, encore une fois, et puis on va les enrober dans une philosophie New Age, qu'on va appeler, du coup, le transhumanisme, et dont je vous dis la définition pour une fois n'est pas coutume, de Wikipédia. Ça peut pas être faux, c'est dans Wikipédia. Transhumanisme. Mouvement culturel et intellectuel prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Le transhumanisme considère certains aspects de la condition humaine comme le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement ou la mort comme inutiles et indésirables. Il compte sur les biotechnologies et les techniques émergentes pour modifier l'homme. Youpi, aurait-il pu rajouter. Bien, voilà ce que veut Google, notre bien à tous. C'est gentil. Pouvoir modifier le génome, pouvoir choisir, c'est génial. Vous voulez un enfant blond ? Pas de problème. Dites-nous ce que vous voulez, donnez-nous les critères. Ça peut être rigolo d'ailleurs de faire, je sais pas, un enfant avec des critères qu'on n'a pas l'habitude de joindre ensemble, peut être un peu original, vous aurez un peu du succès dans les soirées. Vous voulez savoir de quoi vous allez mourir ? Pas de problème, Google est fait pour ça. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais ça pose un problème quand même. Non, c'est pas vrai ce que vous dites. Par exemple, ça risque de faire un peu comme aux États-Unis, où si on sait déjà détecter à l'avance toutes les maladies comme Parkinson, Alzheimer, et qu'on ne peut pas forcément lutter contre, eh ben, vous ne serez pas soigné. Hein, vous savez qu'aux États-Unis, quand on détecte, il y a des gens qui sont payés pour trouver les vices de procédure. Les mutuelles qui sont censées vous rembourser vous diront « mais vous avez un cancer, mais en fait vous aviez en mesure de le savoir si vous aviez fait tel ou tel test. Vous ne l'avez pas fait, tant pis pour vous. Vous auriez dû savoir que vous aviez un cancer. Nous, quand vous avez souscrit l'assurance, c'est un peu facile, vous êtes un tricheur, vous ne nous avez pas dit que vous auriez un cancer dans 10 ans. Eh ben non, on ne vous assure pas, il fallait chercher. Bon. » Voilà ce qui se passe un peu aux États-Unis. Je caricature à peine. Non, vraiment. Les plus riches, pas de problème. Les plus pauvres, hein, oui, on vous aurait bien soigné, mais on ne peut pas. Vous savez, c'est une question de vice de procédure. Bon. Alors, oui, déjà d'emblée, savoir tout ça, ça peut être un peu problématique. Deuxièmement, vous allez me dire, oui, mais en plus, si on arrête de mourir, ça va un tout petit peu poser problème pour vivre tous ensemble. Déjà assez nombreux, quoi. Bon, on n'a qu'à pas faire d'enfants. Ou alors, on peut les modifier. Alors du coup, c'est peut-être mieux. On garde ce qu'on a, on les modifie. Bon, peut-être bien. Je ne sais pas. Je ne vois pas du tout ce qu'il peut y avoir de positif. Alors évidemment, faire disparaître des handicaps, alors, c'est formidable, ça. Mais ça, c'est le boulot de la science, de la médecine. Le boulot de la médecine n'est pas d'assurer l'immortalité ou même de la chercher. Le boulot de la médecine n'est pas de modifier le génome comme si on était des dieux. le boulot de la médecine n'est pas, bref, je vous ressortirai bien la définition, n'est pas du tout de considérer que les aspects normaux de la condition humaine sont inutiles et indésirables. La mort, oui, c'est un peu inutile, c'est un peu indésirable, j'aimerais bien pas mourir. Bon, d'accord. Très bien, voilà tout à fait ce qui nous arrive. Google a mis des milliards pour acquérir tous les brevets actuellement en biotechnologie, parce qu'il a un gourou, Ray, je ne sais plus comment, qui est à sa tête et qui est transhumaniste. Alors, d'un autre côté, on a Facebook qui rachète toutes les technologies actuellement. Alors, c'est rigolo, parce que d'un côté, on a Facebook qui rachète toutes les technologies dans le virtuel, dans le machin. Ils voudraient faire un truc virtuel, mais avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous aurez votre casque virtuel, vous n'aurez plus besoin d'inviter quelqu'un chez vous. C'est le bonheur. Parce qu'en fait, vous l'aurez dans votre casque. Alors, vous aurez la reproduction de votre salon, mais avec en plus quelqu'un qui n'est pas là. Vous n'aurez plus besoin de sortir de chez vous. Alors déjà, les courses, vous pouvez les faire sur Internet, mais même les amis, vous n'aurez pas besoin de les voir. C'est génial. Vous les aurez dans votre caisse virtuelle, il sera là. Donc avec Facebook plus Google, là vraiment, on a des gens pour prendre soin de nous, quoi. C'est chouette. Et du coup, dans un sens, Facebook peut résoudre le problème de Google. Parce qu'on disait, ouais, mais pour la surpopulation, c'est embêtant quand même, si on vit tous éternellement. Eh ben non, parce qu'en fait, il suffit plus, on n'a plus besoin d'avoir d'enfants. On aura un enfant sur notre case virtuelle. Sûr qu'en plus, quand on en a marre, ben on se déconnecte. Pof. C'est vachement bien, vous verrez. Donc, plus besoin même de se reproduire. Enfin bon, là, je vais un peu loin. Mais dans un sens, voilà ce qui... Pour l'instant, je vais un peu loin, mais j'ai l'impression d'être un peu un précurseur. Oui, ça, c'est encore un autocompliment. C'est-à-dire que j'ai l'impression juste que c'est vraiment, mais à notre porte. C'est-à-dire que là, ce que je vous raconte sur Google, c'est pas un 1er avril. Enfin, si, c'est un 1er avril, mais c'est pas un poisson d'avril. C'est vrai. Ce que je vous raconte sur Facebook aussi. J'ai juste anticiper ce que pouvait faire leur entrecroisement. Bon. Et c'est pas des petites sommes. Hein. Facebook a racheté ce truc de technologie virtuelle pour 2 milliards de dollars. C'est quand même les moyens. Bon. Donc voilà. Voilà en gros, je ne crois pas trop caricaturer ce à quoi peut ressembler une conception du bonheur moderne. C'est-à-dire, tout ce qui ressemble un peu à une inconvenance, à un déplaisir, à quelque chose qui freine notre excitation, ben on va s'en débarrasser. Et pourquoi pas ? Eh bien, parce que c'est l'idée la plus effroyable qui soit. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer assez rapidement dans une troisième partie. 3. Le bonheur et le sens de l'existence. Je vais appeler ça un peu, de façon un peu pompeuse. Et j'ai même rajouté, pour que ce soit encore plus pompeux, immanence et transcendance. Alors, il existe pourtant quelques voies intermédiaires. Alors ici, mon but, hein, encore une fois, n'est pas de faire l'apologie du monde grec. Quoique, j'ai beau être un peu réac, je ne vais pas vous dire que tout s'est effondré depuis le monde antique. Quoique. Avec Kant, en revanche, on a déjà une voie intermédiaire. Je vais aller assez rapidement sur Kant, parce que je ne voulais pas terminer sur lui. Hein. Kant, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, on a un double dépassement. On a un dépassement déjà du monde grec, parce que pour Kant, oui, il convient de rompre avec cette conception d'un cosmos harmonieux qu'il faudrait connaître ou imiter. Alors, comme le précise Goethe, après la chute des grandes cosmologies anciennes, et là c'est Goethe, la nature est insensible, le soleil luit sur les méchants comme sur les bons. Ça veut dire que vous soyez méchant ou bon, il n'y a pas vraiment une nature qui vous sanctionne ou qui vous gratifie. Et du coup, ce n'est pas vraiment non plus... la nature, c'est plutôt des lois de choc, de gravité, bref, ce qui, encore une fois, inspire Pascal, je l'avais déjà dit aussi, qui dit que le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Bien. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, ça pourrait être le monde moderne. Bon, donc la nature, c'est finalement quelque chose qu'il faut un peu dépasser. Ça, Kant est d'accord. D'une double façon. Il faut combattre la nature hors de nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les moyens de lutter contre les intempéries, tout ça, on ne va pas se priver. Normal, ça, de ce côté-là, c'est normal. Donc la nature, c'est aussi ce qui représente, ce qui peut m'agresser. On vit dans des villes, on se défend, très bien. Mais il y a aussi la nature en nous. Et la nature en nous, Kant était de ce côté-là assez pessimiste, et il considérait qu'on n'était pas des gens très bons, très sains, spontanément, comme ça. Et donc, notre nature nous pousse vers l'égoïsme. Et Kant dit, justement, combattre la nature en nous, c'est contrecarrer ces espèces d'élan égoïste qu'on a. Alors, j'y reviendrai dans un instant, mais ça c'est la première condamnation, c'est on n'est pas avec Kant dans le monde antique, on est dans une rupture. D'un autre côté, il n'y a pas non plus une vision de l'utilitarisme. Alors ça, Kant est absolument opposé à l'utilitarisme qui existait déjà hein, à son époque. Et aux yeux de Kant, justement, il va falloir, pour agir moralement, s'arracher aux intérêts. La liberté, ça va être justement notre capacité à s'arracher, alors non seulement à la nature en nous qui nous pousse vers l'égoïsme, mais aussi à l'intérêt, c'est-à-dire calculer tout en fonction de l'intérêt. Non, au contraire, pour Kant, agir moralement, c'est agir par devoir, c'est être désintéressé, et c'est agir d'une façon potentiellement universalisable. Et en fait, c'est assez simple. Si, par exemple, vous êtes au chevet de votre grand-mère, dans le but de capter une partie de son héritage, vous n'êtes pas moraux. Même si, par ailleurs, vous aimez votre grand-mère. Si vous le faites surtout pour ça, c'est pas très moral. C'est très utilitariste. Et ça, un animal connaît déjà l'utilitarisme. C'est-à-dire que l'animal, pour Kant, est tout à fait capable d'agir en fonction de son intérêt immédiat. Et quand vous faites ça, vous agissez comme un animal. Si au contraire, vous y allez alors que ça ne vous arrange pas du tout, qu'en fait vous n'aimez même pas spécialement votre grand-mère, mais que vous y allez quand même parce que vous le devez, et parce que c'est votre grand-mère, et parce qu'elle est en train de mourir, et bien là vous agissez par devoir et vous faites le bien. C'est-à-dire quand vous vous contraignez à agir, par exemple, ça peut être un très bon indicateur. Si vous le faites non pas par peur de culpabiliser, aussi, ça c'est un autre mauvais indicateur, mais si vous le faites parce que vous le devez, même si ça vous coûte, alors vous n'êtes pas dans le calcul, et là vous faites quelque chose qu'un animal ne ferait jamais. Votre chien doit choisir entre vous sauver parce que vous êtes en train de vous noyer et manger un très bon os, il mangera son très bon os. Sauf s'il pense qu'en vous sauvant, il aura un encore meilleur os. Donc en gros, l'animal est capable de calcul, il n'est pas idiot. Enfin, pas complètement. Mais vous, vous êtes capable d'aller au-delà. C'est-à-dire, même en voyant où est votre intérêt, de surmonter cette envie de calculer pour agir par pur devoir. Et là, nous dit Kant, on agit absolument librement. La seule façon d'être libre, c'est d'aller à contre-courant du calcul. L'animal, il n'est pas libre parce qu'il obéit. Sa nature le fait tout le temps calculer son intérêt. Vous, vous êtes libre parce que vous êtes capable de surmonter ça et d'aller même encore plus loin que l'animal en agissant d'une façon absolument désintéressée. C'est beau. Je suis capable d'éprouver ma liberté en me contraignant moi-même parce que je le dois. Et pourquoi je le dois ? Parce que je le dois. Je le sais, c'est tout. Et le bonheur dans tout ça ? Eh bien, le bonheur, ça vient après. Pour Kant, ça vient toujours après. Parce que, évidemment, vous le voyez venir gros comme une grosse maison. Eh bien, si vous cherchez à être heureux, vous agissez par intérêt, évidemment. Si le motif principal de votre action, c'est vous faire plaisir, c'est le bonheur, eh bien, dans ces cas-là, vous agissez comme un animal, encore une fois. Vous ne surmontez pas la nature en vous qui vous pousse à l'égoïsme, et vous ne surmontez pas non plus le calcul propre à l'utilitarisme et au toutou. Donc, de façon universelle et désintéressée. Alors, universalisable, ça veut dire simplement, je sais que tout le monde aurait dû agir comme moi, si vous voulez. C'est l'idée que je dois toujours me demander, est-ce qu'il aurait été souhaitable que tout le monde agisse comme moi, dans la situation à laquelle je suis confronté. Si la réponse est oui, c'est un devoir moral. Si la réponse est ça dépend, non, c'est pas un devoir moral. Bon, et le bonheur ? Alors Kant, attendez, il n'est pas si affreux que ça. Il dit qu'assurer son propre bonheur est quand même un devoir. Pourquoi ? Parce qu'il a bien remarqué quand même que quand on n'est pas heureux, on a beaucoup plus de tentation d'agir à l'encontre du devoir. Donc il faut quand même essayer de cultiver un petit peu son bonheur. Mais ça vient en deux. En un, c'est être digne du bonheur. Et être digne du bonheur, c'est être un être moral. Donc le bonheur ne doit pas être cherché immédiatement, ça ne doit pas être le plus grand bien de notre vie, c'est donc pas un eudémoniste, Kant, c'est plutôt une sorte de cerise sur le gâteau. Vous faites votre devoir, non pas parce que vous savez qu'en faisant votre devoir ça vous rendra heureux, pas du tout, la plupart du temps ça vous rend pas heureux du tout, mais ça vous rend fier de vous et ça vous rend plus humain. Et du coup, tant mieux si en plus vous êtes heureux. Voilà en gros ce que nous dit Kant. Bon. C'est pas très joyeux, mais c'est quand même pas mal. Ça veut dire deux choses. La vertu ne rend pas forcément heureux, mais elle rend digne de l'être, encore une fois. C'est quand même déjà une belle consolation. Et en plus, il est quand même gentil quand il nous dit qu'il est permis d'espérer qu'il existe un Dieu. Alors, on n'a aucun moyen ni de prouver qu'il existe, ni de prouver qu'il n'existe pas, mais il est quand même autorisé, il est permis d'espérer qu'il existe. Et même en matière de devoir moral, c'est plus que recommandé. Donc, on peut espérer qu'une justice divine fera une rétribution ultérieurement. Peut-être pas dans cette vie, mais dans une après-vie. Enfin, rien ne nous l'indique. Et donc, petite citation quand même, « La morale n'est donc pas à proprement parler la doctrine qui nous enseigne comment nous devons nous rendre heureux, mais comment nous devons nous rendre dignes du bonheur. C'est seulement lorsque la religion s'y ajoute qu'entre en nous l'espérance de participer un jour au bonheur, dans la mesure où nous aurons essayé de n'en être pas indignes. » Voilà déjà une première optique. On pourrait se dire, bon, c'est pas très joyeux, voilà, contre les Grecs, contre les utilitaristes, en fait, il ne faut plus chercher à être heureux, mais être respectueux de la nature de l'homme, qui est d'être libre et donc potentiellement moral. On pourrait aussi se dire, cette fois-ci avec Heidegger, que une bonne vie, une vie qui a du sens, là encore, on n'est pas sûr que ça conduise immédiatement au bonheur. Mais c'est justement une vie authentique, c'est-à-dire une vie qui prend acte, qui prend en compte sa finitude. Donc c'est exactement le contraire du transhumanisme, qui dit, il y en a marre d'être fini, on veut être infini. Bon. Que dit Heidegger ? Eh bien justement, tout le sens d'une vie, toute l'essence de l'homme, passe par la considération qu'il est un être fini, c'est-à-dire un être pour la mort. Bon, ça paraît absolument pessimiste, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que l'idée d'Heidegger, ce n'est pas se dire tout le temps « Oh, mais je vais mourir, oh, mais je vais mourir ». C'est de prendre conscience que notre vie est limitée. Et du même coup, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a un appel, c'est vraiment le terme d'Heidegger, un appel à l'authenticité. Sortir du « on », sortir de la quotidienneté. Le « on », c'est quoi ? Eh bien, c'est l'espèce d'état impersonnel dans lequel on est plongé la plupart du temps. Quand on regarde la télé, quand on bavarde, quand on rapporte des ragots, quand, bref, le on. Ah, il paraît qu'en ce moment, on est de plus en plus... là, on est dans le on. La vie authentique, c'est la vie de celui qui décide qu'il ne perdra pas de temps, parce qu'il est ce temps qu'est sa vie, et qui, du coup, décide d'accepter, enfin, plutôt de constater, de faire l'expérience du fait qu'il est fini. Qu'il arrête de se dissimuler la mort. Alors même parler de la mort, c'est une façon aussi de se dissimuler la mort. Quand on en parle comme les infos, là on se dissimule la mort. Quand on dit que, voilà, quand on parle de « on meurt » en général, il y a eu 30 millions de morts, on se dissimule la mort. Assumer la mort, c'est affronter la possibilité, j'aime beaucoup cette formule, Heidegger, la possibilité d'une impossibilité absolue. Et comme il ne peut pas s'empêcher d'en rajouter, il transforme un peu Descartes et il dit « Je meurs, donc j'existe ». C'est beau. Donc la mort n'est pas une possibilité comme les autres, c'est celle qui va faire un appel, qui va faire que vous allez vous comprendre et vous assumer. Alors, si on déplace un peu l'analyse du côté de Sartre, on a la même chose. C'est l'idée que je ne peux pas faire n'importe quoi de ma liberté. Je peux faire potentiellement plein de choses, mais je vais faire des choses qui ont du sens. Plus je perds mon temps dans des petits plaisirs sans importance, à ne pas me poser la question de ce que je vais faire de moi-même, plus je perds ma vie. Donc la question est moins celle du bonheur, qui va me rendre immédiatement heureux. Ah, je t'assure, chérie, c'est de m'acheter une nouvelle voiture. Non. Déjà parce que je n'ai pas le permis. Et surtout parce que le bonheur, c'est peut-être déjà donner véritablement un sens profond à sa vie, en acceptant le fait qu'elle est finie, et du coup, en voyant là un véritable sens. Alors, on trouve ça, et il faut que j'aille plus vite encore, comme j'ai commencé un quart d'heure plus tard, je me permets de déborder d'un quart d'heure. Et vous pouvez partir, hein, si... je serais juste très vexé, mais bon. Ah oui, Simone de Beauvoir avait écrit une nouvelle là-dessus, qui est « Tous les hommes sont mortels », dans laquelle des hommes boivent d'un seul coup, enfin un homme boit une eau qui le rend éternel, et c'est ça, c'est là sa grande malédiction, parce qu'il se rend compte que sa vie n'a plus aucun sens. Et imaginez, vous êtes éternel, tout ce que vous pouvez faire demain, vous pouvez le faire aussi dans 500 000 ans. Mais plus rien n'a d'intérêt, plus rien n'a de sens. Je ne parle pas de « tous les gens vont mourir autour de moi » comme dans les mythes de vampires ou Highlander. Je parle vraiment de « et si tout le monde était éternel, eh ben, plus rien n'aurait de sens, puisque tout pourrait être fait à n'importe quel moment. On se dirait « youpi, je peux faire ce que je veux », mais comme le temps n'aurait plus aucune importance, eh ben, vous ne feriez rien. C'est un peu ce que vous faites en général. Enfin, moi, hein, c'est ce que je fais, je dis « vous » parce que je préfère vous accuser que moi. Enfin, quand j'ai un jour où je ne travaille pas, J'anticipe 3 jours avant, qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire tellement de choses. Oh, je vais aller au cinéma, après je vais aller... Et en fait, le jour même, j'ai écrasé par mes désirs, je reste sur mon canapé et je regarde la télé. Ah, c'est trop tard pour le cinéma. Bon, tant pis, c'est pas grave, j'irai plus tard. Et en fait, je fais rien. Eh bien, vous feriez rien de toute votre vie, de toute votre éternité, plutôt. Avouez que vous faites comme moi, la plupart du temps. Avouez-le. Au moins, en votre fort intérieur, faites non comme ça devant moi. Bref, la vie n'a de sens que aussi parce qu'elle est limitée et parce qu'il faut bien en faire quelque chose d'important. Donc c'est ça, la clé, si vous voulez, pour Heidegger. Et il y a un appel, c'est-à-dire que vous souffrez quand vous ne faites pas quelque chose d'important, quand vous perdez votre temps. Vous perdez 3 ans de votre vie à rien faire, ou pas ce que vous voudriez vraiment faire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sollicitation de la conscience qui vous fait à chaque fois culpabiliser dès que vous allumez la télé, dès que, etc. C'est l'appel de la conscience, dit Heidegger. C'est comme ça, on n'y peut rien, on a une culpabilité fondamentale. Vous décidez de gâcher votre vie, eh ben vous ne serez pas heureux. Vous serez rongé par la culpabilité. Il y en a qui disent « Ouais, mais moi je me fais vraiment plaisir à perdre mon temps. » C'est faux, ça marche jamais. On est toujours rattrapé par sa conscience. Bref, voilà la voix d'Heidegger. Alors pour terminer, j'avais envie de terminer par Dieu. C'est quand même assez ambitieux. Mais j'avais envie de montrer alors, que non pas forcément qu'on ne peut pas être heureux sans Dieu, mais qu'on ne peut pas être heureux sans une transcendance. C'est-à-dire quelque chose qui excède le cadre horizontal de notre vie. Et il y a en fait 2 possibilités. En fait, la question est moins quel Dieu ? Un Dieu transcendant ou un Dieu immanent ? Pour Pascal, par exemple, le bonheur sur Terre, non, on ne peut pas. Pourquoi ? Parce que l'homme est déchu, ça on n'y peut rien, et puis surtout, tout ce qui du coup est de l'ordre de l'humain est toujours de l'ordre du désir, de l'ordre de la satisfaction différée, de l'insatisfaction profonde, bref. Tout ce qui est humain nous ramène à notre condition humaine. Donc la seule façon d'être heureux, c'est de voir plus haut, c'est de voir Dieu. Et là, on a les moyens d'être heureux. Alors si vous n'êtes pas croyant, vous allez dire, ça me fait une belle jambe. Mais il vous reste encore une solution. Alors, vous pouvez être croyant, pas croyant. Michel Henry, qui se dit lui-même croyant et même chrétien, a une conception immanentiste de Dieu. C'est-à-dire qu'il place Dieu entièrement dans la vie. Le fait de vivre est, pour Michel Henry, quelque chose qui, en tout cas, pointe vers une forme de transcendance. Alors, il dirait le contraire, parce que pour lui, tout est immanent. Mais qu'est-ce que c'est que vivre ? Eh bien, c'est exactement le contraire de ce que représente un petit peu la vision scientiste qui est la nôtre, c'est-à-dire réduire, par exemple, le vivant à un mécanisme très compliqué. Réduire l'homme à une machine qu'on peut trifouiller. Réduire la conscience à un truc cybernétique qu'on peut tout à fait copier. C'est exactement le contraire. La vie, c'est ce qui justement ne peut pas être copié. C'est ce qui nous habite, hein, ce qui est en nous, mais ce qui est le plus difficile à voir. Et là, il y a une forme de sacralité. Donc vous pouvez quand même trouver une sacralité dans la vie elle-même, qui est extrêmement difficile à cerner. Alors, si vous avez envie de développer ça, parce que je n'aurai pas le temps, il me reste, pour tout dire, 1 minute, eh bien, lisez peut-être La barbarie de Michel Henry, une sorte d'accusation extrêmement violente de notre temps, et à mon avis toujours d'une actualité criante. La barbarie, parfois il se met un peu à jargonner dans son jargon. Il a des mots un peu complexes et des formules un peu hypnotiques. Mais quand vous surmontez ces quelques passages, c'est que des passages, vous avez un livre extrêmement fort et profond. Donc voilà, une sorte d'ouverture sur, d'un côté Pascal, lisez les pensées, c'est prodigieux, et de l'autre, Michel Henry. La barbarie, ou si vous êtes croyant et que vous voulez vraiment faire le lien entre la philosophie de la vie et le christianisme, vous avez 2 livres. Incarnation, qui est mon préféré, et C'est moi la vérité, qui est le plus connu. Voilà. Alors, j'ai quand même terminé par 3 mots de conclusion. Que dire ? On va essayer dans les prochaines années de nous vendre le transhumanisme ou quelque chose de déguisé sous un autre terme, et il faudra dire non. Aussi étonnant que ça puisse paraître, nous n'attendons pas l'amélioration exponentielle de nos performances, la cybernétique, la sélection génomique ou l'immortalité pour être heureux. Nous pouvons estimer que le sens de cette vie réside plutôt dans notre possibilité de nous montrer dignes du bonheur, qui est la marque de notre liberté, et dans le respect de la vie en nous, qui, au final, nous ouvre toujours vers la transcendance. Je vous remercie.